Bonjour et bienvenue au What Service Magazine, l'édition du vendredi 26 janvier 2019. Alors voilà, Hélène Bédard au micro. J'ai avec moi ma fidèle collaboratrice de retour au Talam, Francine Forget.
Bonjour Hélène, ça va bien?
Oui, ça va très
bien. Oui,
je
suis très contente d'être de retour. Évidemment, comme d'habitude, j'ai préparé toutes sortes d'articles intéressants, dont évidemment certains sont très liés à l'actualité. Alors, je vous réserve des surprises au retour de la pause.
Ah, vous êtes fine. Moi, j'ai hâte, j'ai tout le temps hâte à vos articles. De mon côté, évidemment, j'ai toujours mes sujets préférés, qui est le sujet des aînés. J'appelle mes seniors chouchous. Je vais vous parler de plusieurs choses qui arrivent, qui sont arrivées et qui vont arriver. Je vous reviens. OK. Je suis sincèrement désolé. J'ai devancé d'une journée notre émission. Alors, nous sommes effectivement vendredi 25 janvier 2019 et je cède immédiatement la parole à Francine.
Merci beaucoup. Cette semaine, on a parlé alimentation, guide alimentaire, diète. Alors, il y a une application pour le téléphone qui dit comment manger mieux. Alors, je vous en parle. C'était un article qui a été publié, un écran, je devrais dire, dans l'édition du 24 janvier 2019 de la Presse Plus.
C'est hier, ça.
Oui, bien oui, ah, c'est voilà. Ça. C'était jeudi 24, vendredi 25. Et demain, ce sera le 26. Ah, vous êtes tellement d'avant-garde, vous. Alors, photographier son pain grillé tartiné de beurre d'arachide, son café et des rondelles de banane. C'est ce que l'auteur de l'article, Marie Allard, a fait dès son réveil pour tester l'application Foodvisor.
Ah, j'ai une collègue qui fait ça tous les matins.
Bon, alors voilà, peut-être qu'elle a Foodvisor sur son téléphone. C'est une application française, comme son nom le laisse deviner, hein? Foodvisor, c'est très, très français, pour mission de révolutionner le coaching nutritionnel grâce, évidemment, à l'intelligence artificielle. Rien de moins. Foodvisor dit être la première application qui permet d'obtenir les informations nutritionnelles de son repas à partir d'une simple photo. Comment ça marche? Hein? Ouais. Je vois les points d'interrogation dans vos yeux.
Maiguiser la curiosité.
Après avoir téléchargé l'application gratuite, on entre sa taille, son poids, son âge et son niveau d'activité physique au travail. Tous des renseignements qu'on n'aime pas trop donner, mais on n'a pas le choix. Foodvisor nous conseille alors un certain seuil de calories et de nutriments à consommer par jour, différents selon notre objectif. Hein? Si on veut perdre du poids, le stabiliser, engraisser, ça a l'air que ça peut être un objectif. C'est plutôt rare ceux qui ont ça. Au déjeuner, on photographie notre assiette de fruits. L'application reconnaît bien les rondelles de banane et les quartiers d'orange. Ça va bien, ça part bien. Par contre, elle confond les tranches de poire avec des tranches de pommes. Ce qui se comprend, hein? Finalement, ça se ressemble un peu. Prochaine photo. Deux tartines de beurre d'arachide que l'application ne reconnaît pas. Je vous rappelle, c'est une application française. Donc, pas de beurre d'arachide. Mais quand même, on peut entrer manuellement de l'information et estimer les quantités. Ce sera pire au repas du midi alors qu'on mange une salade composée avec du poulet rôti. Foodvisor détecte qu'on mange du chou rouge. On peut assez rapidement ajouter ou enlever les ingrédients et ajuster les quantités. Alors, il est quand même un peu capricieux, Foodvisor, hein? Mm-hmm. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on en dit du côté des spécialistes? Laurence Brouard-Trudel, qui est fondatrice de l'eau à la bouffe, titulaire d'un baccalauréat en sciences de la nutrition de l'Université d'Ottawa, a examiné Foodvisor à la demande de la presse. On lui a soumis le bilan dressé après une journée d'utilisation. Selon ses calculs approximatifs, l'appli a légèrement sous-estimé la quantité de glucides, de protéines, de lipides et donc de calories consommées. Est-ce que je recommande cette application pour un usage quotidien? Non, dit Laurence Brouard-Trudel. Elle peut cependant être bien utile pour établir ses objectifs, perte de poids, gain de masse ou maintien, et se donner une base solide avant d'entreprendre effectivement un cheminement quelconque. Pour les personnes qui ignorent la valeur nutritive des plats et qui aimeraient mieux connaître leur consommation alimentaire, les applications peuvent être utiles, mais de façon temporaire et dans un but éducatif. C'est ce que soutient une autre nutritionniste et docteur en nutrition, Mme Karine Gravel. Est-ce que c'est une obsession, cette affaire de Foodvisor? Voir en photo tout ce qu'on boit et mange en 24 heures aide à prendre conscience de tout ce qu'on avale. À moyen ou long terme, il vaut toutefois mieux se connecter à soi-même. Mm-hmm. Nos sensations de faim et de rassasiement, de même que nos préférences alimentaires, sont nos meilleurs outils pour nous renseigner sur le moment idéal pour manger. La quantité juste et le choix des aliments correspondant aux besoins de notre corps, observe Mme Gravel. Sinon, il est facile de grignoter juste parce que Foodvisor nous dit qu'on a encore des calories au compteur. C'est comme une banque, finalement. Alors, c'est Marie Allard, 24 janvier 2019, La Presse Plus.
Merci beaucoup, Francine. J'ai pas eu le temps de commenter, mais je dois vous dire que je pense que je vais passer mon tour pour l'application et je vais continuer de me référer à mon barème, à mes barèmes. En fait, j'en ai quelques-uns.
Exactement. Là, et au guide alimentaire, vous savez, maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est on regarde finalement dans son assiette les portions et on les voit.
Beaucoup plus intelligent.
C'est beaucoup plus intelligent, effectivement.
Oui, le guide alimentaire, là, ça, il commence à me plaire beaucoup plus qu'il ne m'a jamais plu. De toute façon, il était bien orgile, le guide.
Oui. Plus que nous.
Puis, moi, je vais poursuivre en vous jasant de... Je vais vous poser une question, tiens. Est-ce qu'on peut tomber malade en attrapant du froid? Hein? On a-tu entendu ça de toutes les couleurs, de toutes les façons et de toutes les facettes? Eh bien, là, il y a un article ici que j'ai trouvé dans l'édition du soir Ouest-France. Du 22 janvier de cette semaine. C'était mardi, ça. C'était 3 jours avant nous. J'essaie vraiment de rattraper ma fausse date du début. C'est un texte de Clémence Olivier. Alors, est-ce que c'est vrai que le froid déclenche remégrippe? Ben, pas exactement. Les virus sont simplement plus forts et les gens, un peu moins capables de lutter contre ces virus-là en hiver. Le froid s'est installé sur le pays. Je pense que tout le monde en est conscient. C'est rien d'exceptionnel à cette période de l'année. Mais est-ce que ces températures sont suffisamment basses pour risquer d'attraper du froid et d'en tomber malade? Non, répond le docteur, Manuel Rosa Calatrava, directeur de recherche adjoint à Virpat de Lyon. Bon, pour tomber malade, dit-il, il est nécessaire de croiser un pathogène, un virus ou une bactérie. Mais le froid nous rend plus vulnérables aux infections. Comment ça? Quand il fait froid, les muqueuses du nez qui font office de première barrière face au virus, c'est celles-là qui ne remplissent pas efficacement leur fonction. Je m'explique. Pour éviter que l'air froid arrive dans nos poumons, notre corps réagit en venant réchauffer l'air inspiré au niveau du nez. Or, ce mécanisme de réchauffement assèche et fragilise nos muqueuses. Ah, ça tient la route, ça. Et autre chose, nos vaisseaux sanguins se rétractent avec le froid. Alors, pour éviter de perdre la chaleur à nos extrémités, nos barrières de défense sont alors un peu moins fortes parce qu'il y a moins de circulation sanguine qui se fait. Et sans compter en hiver, et ça c'est peut-être le plus grand prétexte à expliquer, on vit en général davantage confiné dans des endroits moins aérés, donc évidemment plus pollués. Bon, la promiscuité est aussi plus grande. Écoutez bien ceci, quand une personne malade éternue, elle peut contaminer ses voisins situés dans un rayon de 1 mètre autour d'elle. Ah! J'ai bien raison de me protéger quand mes collègues de travail éternuent. Je me dépêche, je me sauve. Et le final, c'est que les virus respiratoires, comme ceux de la grippe ou le VRS, là, ils apprécient les basses températures. D'ailleurs, en laboratoire, on les garde toujours à basse température, plus bas que la température agréable à vivre. Donc, ils sont moins fragiles au froid. Ils sont en pleine capacité quand l'hiver arrive. Par contre, le soleil les fragilise. Les UV du soleil vont casser le génome des virus. La chaleur, elle les assèche, tandis que le froid et l'humidité constituent un véritable cocon pour les virus. Ben voilà qui pourrait expliquer virus plus fort, corps fragilisé. Si le froid ne nous rend pas malade, il est certain que ça ne nous aide pas à résister. Alors, c'était un texte de Clémence Olivier, paru dans Édition du soir, Ouest-France, le 22 janvier 2019.
Merci, bon Dieu. Gardez qui sont la misère finie pour nous. Ouais. Merci, bon Dieu. Gardez qui ça la nati porte pour nous. La pluie tombée, ma vie poussée. Tout le monde qui concourt, y'a pas les manger.
Merci, bon Dieu, par Wesley.
Et bon, Francine, cette fois-ci, vous nous amenez où, nous et les auditeurs?
Au Musée des Beaux-Arts.
Ouh,
je vous parle de médecins qui prescrivent désormais une visite au Musée des Beaux-Arts. C'est un projet pilote qui est unique au monde. Cette expérience-là a commencé le 1er novembre 2018. Les membres de l'Association des médecins francophones du Canada peuvent maintenant prescrire à leurs patients des visites au musée. C'est un projet collaboratif entre le musée et l'Association des médecins qui consolide les liens entre le milieu médical et muséal. Alors, cette expérience, on en parle dans la revue du Musée des beaux-arts de Montréal, l'édition de janvier à avril 2019. Pour mieux comprendre ce phénomène, ce projet, qui est une initiative évidemment de Mme Bondil, la directrice générale et conservatrice en chef du musée, Thomas Bastien a rencontré la docteure Hélène Boyer, qui est la vice-présidente de l'Association des médecins francophones du Canada, qui participe à ce projet. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets de l'utilisation de la prescription dans le cadre de votre travail? La prescription muséale a des indications multiples et s'adresse en fait à tous nos patients. Les bienfaits de la thérapie par l'art sont maintenant reconnus et soutenus par des données probantes issues de la littérature scientifique. Les études démontrent que de créer ou d'être exposé à une œuvre apporte des bienfaits physiologiques et psychiques. La prescription muséale est indiquée pour divers troubles de santé mentale, par exemple, les troubles dépressifs ou d'adaptation, les troubles anxieux, les troubles du comportement alimentaire, ainsi que des troubles cognitifs tels que les troubles de mémoire, la maladie d'Alzheimer et les autres formes de démence. Mais nos visées sont plus larges. Nous cherchons aussi à rejoindre les diabétiques, l'hypertension artérielle, la maladie pulmonaire chronique, les maladies neurologiques et toutes les formes de cancer. Je suggère également de prescrire une visite muséale en post-hospitalisation. Oh là là!
Oh!
Quel mot que j'avais pourtant pratiqué, mais ça ne paraît pas, je ne devrais pas le dire, au moment du congé. Alors, pourquoi vous collaborez, Madame Boyer, Docteur Boyer, avec le musée, lui demande Thomas Bastien. Notre collaboration repose sur deux éléments essentiels. D'abord, sur son expertise bien établie en art-thérapie. Ça fait longtemps qu'on fait de l'art-thérapie au musée,
oui,
et c'est une pratique régulière. Et ensuite, sur les valeurs communes à nos deux organisations. Depuis 2016, le musée connaît beaucoup de succès en offrant des ateliers d'art-thérapie à différents groupes de patients. En 2017, lors de notre congrès annuel de médecins, Médecins francophones du Canada a invité Nathalie Bondil à parler des bienfaits de la thérapie par l'art. Sa présentation a réussi à convaincre les médecins les plus sceptiques de la pertinence de cette approche. Alors, c'est très intéressant, cet article, je le répète, est dans la revue du musée. Les propos ont été recueillis par Thomas Bastien et c'est un projet pilote, unique au monde, qui, nous l'espérons, se poursuivra.
Oui.
Hein? Une expérience heureuse.
Avec bonheur.
Oui, oui, oui.
Avec bonheur. De mon côté, je vais vous jaser, je vous ai déjà parlé des proches aidants, cette fois-ci j'y reviens. Saviez-vous qu'une personne sur quatre est une proche aidante? Et à partir de combien d'heures de soins par semaine devient-on une proche aidante ou un proche aidant? Et est-ce un rôle strictement réservé à la famille? Des bonnes questions. La personne qui offre des services de popote, qui va faire des visites à domicile, elle apporte de l'aide, mais elle n'est pas considérée comme une proche aidante. Ça prend un lien significatif. L'Université de Laval était l'hôte en décembre dernier, juste derrière nous, d'une vaste consultation sur le sujet. Il y avait 200 proches aidants qui avaient été invités, ainsi que plusieurs représentants d'organismes pour nourrir cette réflexion et évidemment alimenter la future politique nationale pour les proches aidants. Le proche aidant, dit-on, typique, prend soin d'un parent âgé en perte d'autonomie. Or, la consultation a permis d'entendre de nombreux parents de jeunes, des jeunes, là, lourdement handicapés. Il a été aussi question de gens qui ont des proches avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. C'est un autre volet de la proche aidance. L'aidante, c'est la pierre angulaire du système de santé. Sophie Étier, qui est professeure et experte dans le domaine, participait à cette consultation. Elle dit ceci. Aller porter de la soupe à ma mère pour lui faire plaisir, ça fait pas de moi une proche aidante. Elle n'a pas besoin de ma soupe pour vivre ou survivre. Il faut que ce geste soit nécessaire à sa survie ou à son équilibre. Mais il y a beaucoup de proches aidants qui s'ignorent. Les gens ont souvent une résistance inconsciente à s'identifier, a-t-elle souligné. Le père d'un enfant handicapé, d'ailleurs, est venu faire une intervention lors de cette consultation pour souligner à quel point les hommes étaient réticents à se reconnaître comme des proches aidants. La plupart des papas évitent tout simplement le sujet. Ils invitent donc le gouvernement à montrer plus de pères avec leurs enfants handicapés dans les publications. Pas une méchante idée, ça. Pourquoi cette réticence? Parce que cela revient en fait à reconnaître l'irréversibilité de la condition de la personne aidée. Pour l'artiste, et je la cite, Chloé Sainte-Marie, les gens ne veulent pas se voir comme des proches aidants parce que ça se reconnaît comme esclave. A-t-elle dit avant d'évoquer les 17 années de combat terrible où elle a pris soin de son conjoint, Gilles Carle. Le ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Blais, se donne jusqu'à la fin 2019 pour concevoir sa politique. Les participants ont notamment évoqué des problèmes liés à la confidentialité. Par exemple, et ça c'est assez étonnant, je suis contente de l'avoir lu. Une dame mariée depuis très longtemps à un homme aphasique, a parlé de ses accrochages quasi hebdomadaires avec la banque. On voudrait être reconnu comme partenaire et qu'on arrête cette confidentialité. Cet enjeu se pose aussi au côté médical. Si ma mère souffre d'Alzheimer et que j'appelle le médecin pour avoir des informations, ben, on va refuser de me les donner. Une demande qui dit qu'il va être exaucé, selon Mme Blais, qui s'en est engagée. Elle dit, je vous promets qu'il y aura un dossier pour les prochains dents. Une femme dont un autre cas très pathétique, une femme dont le fils a 26 ans est lourdement handicapé, a mentionné avoir passé une quarantaine de personnes depuis qu'il est né. Enfin, certains ont souligné qu'il y avait d'excellents services à faire, mais que certains étaient méconnus ou cloisonnés. Alors, avant de créer du neuf, il fallait peut-être regarder ce qui fonctionne le mieux. C'était un texte de réflexion de Isabelle Porter de Québec, le 12 décembre 2018, et elle a fait paraître ça en actualité dans Le Devoir.
Je marche tout seul le long de la ligne des chemins de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en vie. Peut-être un petit peu trop fragile. Alors maman. Je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Je traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures.
Pièce d'Alain Souchon, revisitée par Brigitte Allô Maman Bobo.
Très belle chanson, merci. Merci Maurice. Francine, qu'est-ce que vous nous...
Rapidement, je vais vous parler d'un cadre juridique pour l'intelligence artificielle. En fait, dans sa chronique du 8 janvier 2019 dans Le Devoir, Pierre Trudel aborde différentes lois et le numérique. Et je vous parle de ce cadre parce que de ce temps-ci, on parle beaucoup du « deepfake ». J'en avais déjà parlé ici, mm-hmm. hein, c'est-à-dire que à l'aide de l'intelligence artificielle, on reproduit le visage de quelqu'un, oui. sa voix, et on lui fait dire ce qu'on a le goût qu'il dise, et non pas ce qu'il a l'intention ou ce qu'il aurait pu dire. Alors, je vous parle de ce cadre pour l'intelligence artificielle qui, en fait, a émané de la déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle et qui a affirmé l'obligation de subordonner le déploiement des dispositifs techniques intelligents au contrôle démocratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le recours à l'intelligence artificielle ne saurait avoir pour conséquence de déresponsabiliser les personnes. Et ces usages doivent être compatibles avec la diversité sociale et culturelle. Les conséquences de tels procédés doivent être anticipées en fonction d'un principe de prudence. En clair, cela requiert que les États reconstruisent leur capacité de suivre et d'anticiper les développements plutôt que seulement réagir aux pressions des entreprises. Alors, Pierre Trudel, on reviendra et nous parle de différentes lois dans cette chronique.
Oui, m'intéresse beaucoup ça. J'ai vu un court reportage à ce sujet et c'est particulièrement surprenant.
C'est inquiétant.
Inquiétant surtout.
Inquiétant.
Et voilà, pour continuer dans ma ligne des proches aidants, j'ai ici quelque chose qui est paru dans... C'est un site Internet qui s'appelle Appui pour les proches aidants d'aînés. Prenons le temps de remercier les proches aidants qui nous entourent. Il existe mille et une façons d'exprimer notre reconnaissance aux proches aidants. Voici des petites idées à partager, soit sur les médias sociaux, par courriel. Enfin, c'est à vous de jouer. Pourquoi pas envoyer quelque chose comme « Pour tout ce que tu fais, je te dis merci ». Merci d'être là. Merci pour l'amour que tu me donnes au quotidien. Ou celle-ci. J'admire ton courage et surtout tout l'amour et toute la patience que tu as. Je pense à toi. Des petits mots doux qui sont tellement précieux. Le plus difficile, c'est pas de donner. Mais c'est de pas tout donner. Et ça, tu le fais très bien. Demander de l'aide ne signifie pas que je suis faible. Seulement que... je souhaite rester fort. Tu le savais peut-être pas, mais voilà, je te le dis, je t'admire. Et je t'envoie une pensée pleine de reconnaissance, inspirée par ta générosité. Ou simplement dire « je t'aime ». Ou vous finissez en disant « je pense à toi, je t'appelle ce soir ».
Ah, que c'est beau, Hélène! Pour terminer oui. Cette première partie d'émission, c'est émouvant! Émouvant.
Et je vous reviens, ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Continuons cette fois-ci, Francine, avec...
Des pirates informatiques sont bien intentionnés.
Bon, allez.
Ça se peut.
Ça se peut-tu?
Oui, oui, oui. On dit toujours des hackers que c'est des mauvaises personnes.
Des méchants. Des méchants.
Des méchants. Mais en fait, il y en a qui glandent l'information éparpillée aux quatre coins du web pour retrouver des personnes disparues. Hein, c'est pas rien quand même,
c'est pas rien.
Alors, c'est un texte de Maxime Bilodeau paru dans Québec Science, janvier-février 2019. La lutte est serrée entre les 65 équipes qui s'affrontent en ligne. Alors, vous dites, voyons, qu'est-ce que ça vient faire, ça, là par rapport au sujet. Alors, bien, c'est que c'est une compétition. Alors, les Blue Team Ninja, ils caracolent en tête du classement avec, bon, des milliers de points, talonnés de près par une autre équipe. Le pointage peut grimper vite à coup de 100 points pour une adresse courriel, voire 400 pour une série de photos. Chaque information a une valeur définie en fonction de sa capacité à faire avancer l'enquête en cours. Retrouver une véritable personne disparue.
Ah, wow!
Oui, madame. Bienvenue à la toute première partie organisée par l'association à but non lucratif Trace Labs, nouvellement fondée. La compétition, présentée à l'occasion de la conférence The Hackers DEFCON Toronto, tenue en juillet 2018, est structurée comme un jeu. À l'aide de logiciels de minage de données qui permettent d'effectuer des recherches très poussées, les participants dénichent de l'information publique en ligne dans le but de mettre la main sur la cible. Seule une fraction des gens qui disparaissent font l'objet de recherches sérieuses entreprises par la police, explique Robert Sell, qui est le fondateur de Trace Labs, qui est aussi membre d'un groupe de recherche et de sauvetage traditionnel qui fouille forêts et cours d'eau en Colombie-Britannique. Les statistiques tendent à lui donner raison. En 2017, il y a eu 78 000 personnes, surtout des enfants, en fait, dans 61% des cas, qui ont été portées disparues au pays. Ça, c'est des chiffres qui nous viennent de la Gendarmerie royale du Canada. De ce nombre, environ 500 le sont toujours. Alors, quand même, il y a plusieurs personnes qui ont été retrouvées, mais il y en a plusieurs qui ne l'ont pas été. Dans l'imaginaire populaire, le pirate informatique, c'est nécessairement un être malicieux. Alors, vous n'étiez pas la seule à réagir comme vous avez réagi tantôt. Pourtant, les contextes de piratage se sont multipliés au cours des dernières années, fait valoir Éric Parent, qui est président et fondateur de LogicNet IVA Technology, une firme spécialisée en sécurité informatique. Les activités qui permettent le piratage à l'honneur proposent désormais des compétitions dont les cibles sont des entreprises qui souhaitent améliorer leurs mécanismes de défense informatique. Trace Labs s'inscrit dans cette tendance, mais en même temps, il fait œuvre utile. C'est une manière, pour le moins originale, de joindre l'utile à l'agréable, puisque des prix sont remis aux équipes gagnantes. Depuis juillet dernier, Trace Labs a organisé d'autres parties semblables à celle de Toronto, notamment dans le cadre de DEF CON Vegas et de Hackfest 2018, présentées en novembre à Québec. La chance n'a toutefois pas souri aux participants. Pour le moment, ces deux dernières compétitions n'ont pas permis de retrouver des gens qui étaient disparus. Cependant, il en reste toujours quelque chose, puisque l'ensemble des informations récoltées a été remis aux forces de l'ordre. Donc, en fait, ces gens permettent au moins de recueillir des informations et ils travaillent, oui, en partenariat avec la police pour aider dans le seul but, en fait, je dirais, humanitaire, outre si on oublie leurs objectifs de vouloir améliorer la sécurité informatique dont nous profitons tous de toute façon. Le seul but humanitaire, c'est vraiment de retrouver des personnes disparues. Alors, je rappelle que c'était une chronique dans Québec Science, janvier-février 2019, et c'est Maxime Bilodeau qui en est l'auteur.
Excellent sujet. Merci beaucoup. Eh bien, moi, merci. Ça, comme je le disais hors des ondes, ça remonte un peu dans mon estime. Par contre, je veux vous faire une mise en garde avec des conseils qui viennent de Aîné Avisé. Alors voilà, c'est paru il y a très peu de temps. C'est paru en décembre 2018. Plusieurs fois par année, il y a beaucoup de conseils sur la fraude, la maltraitance, l'intimidation envers les personnes âgées qui sont publiés sur le site Internet du programme Aîné Avisé. L'objectif, évidemment, c'est de fournir des renseignements complémentaires à ceux qui sont transmis pendant les séances, rejoignant ainsi un plus vaste auditoire. Les conseils de Aîné Avisé proposent de l'information fiable, de qualité et pertinente pour les aînés, évidemment, et leurs proches. Je vais vous donner un petit exemple. Irène, âgée de 80 ans, est heureuse d'utiliser son nouvel ordinateur pour communiquer avec sa famille. Un après-midi, elle reçoit un message qui semble provenir de l'Agence de Revenu Canada. Ce message prétend qu'Irène a droit à un important remboursement d'impôts. Le courriel contient un lien vers un site web où on lui demande de fournir des renseignements personnels. On lui demande aussi de fournir son adresse, sa date de naissance, son numéro de compte bancaire, pour pouvoir déposer, évidemment, l'argent directement dans son compte. Jusque-là, on semble que ça apparaît tout simple et plein de bonne volonté. Est-ce que cette situation vous semble familière à quelques-uns d'entre vous?
Oui, madame.
Et voilà.
Oui.
Et voilà. Chaque année, des Canadiens perdent des millions de dollars à la suite de stratagèmes d'hameçonnage par courriel qui se soldent, évidemment, vous l'aurez deviné, par des vols d'argent et aussi des vols d'identité. Méfiez-vous des courriels qui laissent croire qu'ils sont envoyés par l'Agence de Revenu Canada. Cette agence ne demande jamais, jamais à un contribuable de lui fournir par courriel des renseignements personnels quels qu'ils soient. Ils les ont déjà. Alors, ils ne voudront pas les redemander. Supprimez carrément ces courriels d'hameçonnage et ne cliquez surtout pas sur aucun lien se trouvant dans les courriels. Ça, c'est bien important. Ils peuvent contenir des virus. Cependant, comme Irène n'a pas une bien longue expérience de l'ordinateur, elle se dit que le courriel est sans doute authentique puisqu'il vient du gouvernement fédéral. Elle suit le lien et entre tous les renseignements personnels sur le formulaire.
Oh là là!
Oh, pauvre madame. En cas de doute, demandez-vous ceci. Okay. Ma collègue me disait tantôt, c'est mieux de poser des questions que de donner les réponses. Ben, elle a raison. La question, suis-je en attente d'un remboursement ou d'un versement supplémentaire du gouvernement? Bonne question. Est-ce que cela semble être trop beau pour être vrai? Ça, c'est encore très bon. Et comment le demandeur s'est-il procuré mon adresse courriel? N'oubliez pas, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Alors, faites attention, aînés avisés, c'est des conseils qui vont pour tout le monde. Méfiez-vous ou demandez conseil à quelqu'un d'autre si jamais ceci vous arrive. Donc, c'est apparu dans le site Internet de Aînés Avisés en décembre 2018.
Mon père avait laissé ma mère au centre d'achat.
Mon père avait laissé ma mère au centre d'achat.
J'en ai Lisa s'apprête assis sur le sofa.
J'en ai Lisa s'apprête assis sur le sofa.
Un hold-up en première page. Ça y a sauté dans le visage, puis il est sorti pour checker ça. Après avoir laissé ma mère au centre d'achat,
après avoir laissé ma mère au centre d'achat,
mon père était parti pour s'acheter du tabac.
Mon père était parti pour s'acheter du tabac.
En sortant de la tabagie, il a entendu deux coups de fusil, puis il s'est demandé ce qui se passait là. Ma mère debout sur le comptoir, avec un gun entre les mâchoires, qui faisait peur aux employés du magasin d'antiquité. Mon père rentre dans le magasin, suivi de Johnny pis de ses copains. Ma mère le tire à bout portant, avec son gun noir chargé à blanc. Mon père en crise a pris ma main par les épaules.
Mon père en crise a pris ma main par les épaules.
Et tous les deux ils ont lancé un rock'n'roll.
Et tous les deux ils ont lancé un rock'n'roll.
La police fait son entrée. À coups de pied des antiquités, le gérant trouva ça moins drôle. La police a ramené ma mère à la maison.
La police a ramené ma mère à la maison.
Ils sont allés conduire mon père à la prison.
Ils sont allés conduire mon père à la prison.
Johnny est retourné se coucher parce qu'il était pas mal fatigué. Mais l'histoire en dit pas plus long.
Les charbonniers de l'enfer, hold up.
C'est bon! Merci, merci Maurice. Oui, Francine, vous aviez quelque chose à me commenter, je
crois. En fait, je vais enchaîner avec le titre de la chanson donnée par Maurice et enchaîner avec votre article également. Alors, si on parle de hold-up informatique, parce que c'est un peu ça.
C'est ça.
J'ajouterais que les manœuvres dont vous avez parlé se font aussi par texto. Alors, présentement, on reçoit des textos. Oui. Je vais passer à un autre sujet, plus léger, parce que, en fait, tout cet environnement numérique, il y a de bons côtés et de mauvais côtés, mais il y a beaucoup de bons côtés, encore une fois. Alors, je vous parle de l'impression 3D. Je vous en ai déjà parlé il y a un certain temps. J'y reviens parce que cette fois, c'est très québécois, ce dont je vais vous parler. Ça se passe ici. Alors, en attendant de voir nos demeures construites de toutes pièces avec des imprimantes 3D géantes, cette technologie s'immisce déjà sous notre toit et sur les planches de nos architectes, à plus petite échelle, pour donner un nouveau relief à nos projets d'intérieur. C'est un dossier de Sylvain Sarrazin qui s'intitule « Impression 3D design maison », édition du 19 janvier 2019 de la Presse Plus. L'impression 3D a plutôt bonne presse ces dernières années, mais qu'est-ce qu'elle nous apporte concrètement? Son utilité dépasse-t-elle le cercle des passionnés de petites figurines de jeux de plateau? Il suffit de se rendre dans les quartiers de Michel Grenier à Montréal pour constater l'étendue du potentiel de cette technologie pour notre habitat quotidien. Celui qui s'est procuré une première imprimante du genre en juillet, sautant sur une aubaine, a commencé par créer une version 3D d'un jeu de société qui s'appelle Catan. De fil en aiguille, cherchant à maximiser le potentiel créatif du procédé, il a acquis une meilleure imprimante, amélioré ses habiletés en la matière et s'est mis à concevoir et imprimer toutes sortes de rangements et supports personnalisés pour les installer dans son logis. Oui, c'est une belle passion. Après le défi de Catan, alors ce monsieur, Michel Grenier, dit « Je me suis attaqué à la composition de mes propres pièces qui allaient répondre à un besoin. Étant un maniaque de gestion et de rangement, j'essaye de trouver une façon de bien ranger tout ce qui traîne », expose-t-il. L'imprimante n'a pas tardé à combler ses désirs d'organisation. Ici, un support mural pour brosse à dents, dentifrice et verre de rinçage. Là, un petit râtelier à outils spécifiquement conçu pour les dimensions de ses pinces et tournevis. Plus loin, un ingénieux distributeur à coton-tige et on en passe. On pourrait acheter ces objets au magasin, mais des fois, c'est pas exactement la hauteur ou les dimensions dont tu as besoin, dit Michel Grenier. Alors, on comprend que cette technologie qui amène à imprimer des choses en 3D va permettre de créer des objets qui, vraiment, là, sont très, très axés sur nos besoins et sur l'espace dont on dispose.
C'est vraiment étonnant. C'est des objets qu'on laisse quand on déménage, là, parce qu'ils font dans le coin
bureau. attention, comment ça marche, cette affaire-là? Alors, trois questions rapportées dans ce dossier de Sylvain Sarrazin. Grossièrement, à partir d'un fichier récupéré sur l'Internet, alors, il y en a plusieurs qui sont libres de droit ou créés avec un logiciel de dessin 3D spécifique. Certains aussi sont gratuits. On transmet par l'entremise d'un autre logiciel, un slicer en fait, les informations d'impression à son appareil. C'est pratiquement comme une machine à coudre, dit Michel Grenier, devenu un adepte du procédé. En gros, une bobine de plastique est enfilée dans un extrudeur qui guide le filament vers un élément chauffant. Puis il sort par la buse qui va le faire fondre et construire la pièce en couches de bas en haut. Il faut compter plusieurs heures pour l'exécution, selon la taille et les détails de l'objet, voire une nuit entière dans certains cas. Hein, plus c'est gros, plus ça prend du temps.
Ouais.
D'autres procédés existent, mais celui qui est décrit ici est le plus courant parmi les imprimantes grand public. Combien ça coûte? On peut acheter sa propre machine, dont le prix peut varier entre 250 pour un mini-modèle et 5 000 $ et plus pour des imprimantes plus grandes et plus élaborées. pour le prix d'une bobine, on peut penser que ça va être lié à son poids. Et pour les filaments de base, on parle de 25 $ pour un kilo. Est-ce que c'est facile à utiliser? Alors, les débrouillards, ou en fait les gens qui ont une expérience avec des logiciels de dessin classique ou de modélisation 3D, n'ont aucune difficulté à s'adapter. Pour les autres, plus de temps sera nécessaire, mais une communauté très active s'est développée sur le web. Donc, on a des questions? Alors, on entre sa question dans notre ami Google et en fait, il y a des gens qui vont nous accompagner virtuellement pour arriver à produire ce qu'on veut. Alors, je rappelle que c'est un article de Sylvain Sarrazin, publié dans la Presse Plus du 19 janvier 2019.
Ça m'enchante.
Je poursuis avec une très belle lettre que j'ai trouvée dans un site qui s'appelle « Vie de grands-parents ». Et c'est une lettre signée par, et rédigée et signée par Andréanne Gagnon-Lacombe. Cette lettre a été écrite le 26 novembre 2018. « Chers parents, j'aimerais te dire, et me dire à moi-même d'abord, car il y a des choses si faciles à oublier dans la course du quotidien, qu'un enfant de 2 ans va toujours être attiré par un trou d'eau. » Il voudra inévitablement se mettre les 2 pieds dedans et s'éclabousser avec joie. Ben oui, ses habits vont être un peu beaucoup trempés. Il y aura peut-être un peu froid aussi. Mais laissez-le donc aller à cette découverte de l'eau qui virevolte en 1000 petits éclats. Et regardez ses yeux qui brillent au lieu de ses vêtements qui dégoulinent. J'aimerais aussi vous dire que vous n'avez pas besoin de demander à votre enfant de 4 ans de réciter son alphabet par cœur pour montrer à quel point il est intelligent. Je le constate déjà, je le sais, car je le vois. Regarder les enfants plus vieux, tenter de les imiter. Je le vois recommencer 1000 fois son pont avec des blocs pour qu'il soit plus solide. Je le sais parce qu'il vient me voir, qu'il me parle de ce qui l'intéresse. Il pose des questions. J'aimerais vous dire aussi que lorsque je vous croise à l'épicerie et que votre enfant fait une crise parce que vous lui avez interdit de tâter les poires, les pêches, et etc., je vous juge pas, je compatis avec vous. J'aimerais vous dire que je ne crois pas que vous soyez un parent négligent parce que ces habits portent des marques de crayons, de chandail sur le chandail, du sable dans ses souliers, des taches de gazon sur les pantalons. Moi, tout ce que je vois, c'est un enfant qui s'est amusé. J'aimerais vous dire aussi que votre enfant peut bouger au restaurant ou dans un lieu public, que vous n'avez pas à en être gêné. J'aime mieux voir un enfant allumé et vivant et bruyant plutôt qu'un immobile hypnotisé devant sa tablette, absent du monde qui l'entoure. J'aimerais vous dire que je me fous de l'âge à laquelle votre enfant a marché ou parlé. Votre enfant, il est comme il est, et c'est tout. J'aimerais vous dire aussi que même si votre enfant ne finit pas toute son assiette, il ne mange pas tous ses légumes en visite, et puis après, c'est la fête, la routine est bousculée. J'aimerais vous dire qu'un enfant touchera toujours à tout ce qu'il ne faut pas qu'il touche, qui tombera endormi au pire moment. Il va s'éveiller à l'heure où vous tombez de sommeil. Il adoptera un comportement qui va vous laisser pantois, que sa ténacité à vous contredire vous étonnera toujours. Et elle ajoute ceci. J'aimerais vous dire que votre enfant sera toujours votre pire cauchemar et votre plus grande fierté. Andréanne Gagnon-Lacombe, une grand-maman, 26 novembre 2018, dans le site Vie de grands-parents.
Pourtant je n'y suis jamais allé. Non,
je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour, toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire mais je n'y comprenais rien.
Benjamin Biolay et Melvin Poupoui, Roi Madureira.
Merci, c'est très doux. Merci beaucoup. Francine, vous poursuivez avec quel sujet cette
fois-ci? Je reviens avec Pierre Trudel, sa chronique sur les lois et le numérique parue dans Le Devoir du 8 janvier 2019. Je vous parle de deux petites choses, des règles plus strictes pour les plateformes en ligne et d'une fiscalité équitable. D'abord, les plateformes en ligne et des règles plus strictes. Dans certains pays, on a introduit des règles plus strictes pour les plateformes comme Facebook, YouTube ou Google. Par exemple, les autorités européennes ont œuvré à la mise en place de règles modernisées sur le droit d'auteur et l'audiovisuel. La France a imité l'Allemagne en se dotant d'une loi sur les fausses informations circulant dans les médias sociaux. En France, on a introduit une taxe afin de recycler une partie des revenus des productions d'œuvres originales. On a aussi vu s'accroître les menaces de censure. L'Europe souhaite étendre sa censure des moteurs de recherche à la planète entière, tandis qu'aux États-Unis, le président Trump à lui seul, qui menace périodiquement Google et qui l'accuse d'être partial, est en fait un censeur.
Ouais.
Une fiscalité c'est équitable vrai. Maintenant, avant de vous laisser la parole, Hélène. En fait, c'est comme un rappel, mais il faut savoir que dans certains pays, entre autres au Québec, le rattrapage pour établir l'équité fiscale a connu des avancées encourageantes. Au Québec, on applique désormais les lois générales sur la fiscalité des produits de consommation aux plateformes en ligne comme Netflix ou Spotify. Alors, c'est assez récent, on paye la taxe sur Netflix et Spotify au Québec. Et c'est bien pour notre développement culturel.
Absolument.
Je vous laisse la parole.
Merci. Eh bien, moi, je vais aller en sous-sol cette fois-ci. Et j'ai ici un article fort intéressant pris dans l'actualité. C'est à la recherche de Schlaga. Et non pas la Excusez-moi. Découvrir sur l'asphalte du centre-ville de Montréal les vestiges de ce qui pourrait être le mythique village iroquoien d'Hochelaga. Voici ce que les archéologues québécois ont découvert l'été dernier. C'est un peu le Saint Graal des archéologues québécois, explique Christian Gates. L'excitation des archéologues a monté d'un cran à l'été dernier quand une équipe a mis à jour près de l'intersection des rues Peel et Sherbrooke ce qui pourrait être la continuation du site Dawson, c'est-à-dire les restes du village qui avait été déjà découvert au coin de Metcalf et Maisonneuve. Ça a l'air de se rejoindre tout ça. S'agit-il du lieu qui symbolise la première rencontre officielle entre les Amérindiens et les Européens? Peut-être, dit Christian Gates-Saint-Pierre, l'archéologue travaille à dater les artefacts trouvés au centre-ville. Les premiers résultats indiquent qu'ils remonteraient aux années 1375. Le travail de datation se poursuit, on ne sait jamais. Ça pourrait peut-être être officiellement le village de Hochelaga. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. Merci, Francine.
Mais c'est toujours un plaisir, Hélène, vous le savez. Alors, on va se revoir vendredi, hein, oui. Vous, les auditeurs.
Merci beaucoup.
Peut-être Maurice, on ne sait pas.
Merci, Maurice. Au plaisir. Bonne santé, bonne semaine.